France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Et où vit-on le mieux en France? La question n'a pas beaucoup de sens tant qu'on ne définit pas ce qu'on recouvre par le bien-vivre. Il existe une série de palmarès en France, publiée tout au long de l'année, qui recense les villes où la vie est, paraît-il, plus agréable qu'ailleurs. La campagne attire toujours, surtout depuis la séquence Covid. Elle attire pour son cadre de vie, pour son coût de la vie également. Les moyennes et les petites villes aussi ont su attirer ceux qui ont toujours besoin des services urbains. Alors certains qui avaient quitté les grandes villes après le Covid en sont revenus, on verra pourquoi. Ce soir, on va parler de bien-être environnemental selon les communes de France. On va parler de stress et donc d'équilibre selon le lieu où l'on vit, pas toujours par choix d'ailleurs. Vous écoutez Une Semaine en France, soyez les bienvenus. Bienvenue.
Éric Delvaux, le 18-20.
Avec un premier témoignage pour illustrer cette entrée en matière. Bonsoir Mathilde Sill.
Bonsoir.
Avec votre mari, vous avez quitté Paris il y a 6 ans pour Poitiers. Vous nous avez expliqué avant l'émission que vous vivez désormais votre vie en mieux. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que quitter Paris, c'était pas changer de vie. C'était pas fuir Paris et tout ce que cette vie pouvait apporter, mais c'était trouver un équilibre et aussi pouvoir répondre à d'autres aspirations. Et c'était finalement plus facile de le faire quand on vit dans une ville moyenne que de le faire quand on vit dans une métropole.
Mais qu'y a-t-il de plus simple quand on quitte Paris pour une grande ville de province ?
Eh bien, ça peut paraître paradoxal, mais en tout cas, pour le choix que j'ai fait, moi, de partir vivre à Poitiers, on retrouve, par exemple, de la mobilité. On peut partir, bouger pour le temps d'une balade, le temps d'un week-end, partir en vacances, un peu quand on le souhaite, à partir du moment où il y a des infrastructures de déplacement. Et c'est le cas à Poitiers, où on a un très très bon réseau de TGV, un bon réseau autoroutier, et aussi un grand réseau de sentiers de randonnée qui partent du centre-ville. Donc par exemple, on retrouve de la mobilité que paradoxalement, on n'avais pas autant en vivant pourtant au cœur du nœud ferroviaire et du cœur du nœud routier en France.
Et retisser un réseau social quand on change de vie comme ça et qu'on arrive à Poitiers, se refaire des amis, est-ce que ça a été compliqué?
Alors d'abord, je voulais pas me refaire des amis, mes amis chers sont à Paris, mais ça nous a pas semblé compliqué. Alors on avait des enfants en bas âge, donc il y a toujours l'argument de rencontrer des parents à l'école, mais c'est aussi une ville où il y a énormément de réseaux associatifs, et puis il y a une attention à l'autre, une facilité et une convivialité dans les relations humaines qui permet de rencontrer facilement d'autres personnes, surtout à Poitiers, dans une ville où il y a beaucoup de gens qui sont là pour un temps court ou qui passent dans cette ville, par exemple pour le travail, et tout le monde est... Il n'y a pas d'idées préconçues sur des gens qui viennent d'ailleurs. C'était assez facile de recréer une vie sociale et avec beaucoup de convivialité et puis aussi de facilité à vivre sa vie sociale quand on a des temps de déplacement qui sont très courts pour aller d'un point en autre. Bah aussi, on peut aller facilement voir ses amis, facilement dans des lieux de convivialité sympathiques selon les moments de l'année. C'est aussi ça que ça nous a apporté.
On va aussi parler de stress ce soir. En quoi le stress des attentats de 2015 a-t-il été un point de bascule dans votre décision de quitter la capitale?
Voilà, en tant que Parisien, surtout habitant dans l'Est de Paris, on a eu l'impression durant cette année 2015 d'être un peu dans le cœur de la cible. Et c'est vrai que de partir vivre dans une ville moyenne dont on ne parle pas très souvent, où il ne se passe finalement pas grand-chose, eh ben, il y a aussi ce sentiment d'être un petit peu à l'abri, à la fois d'actions violentes qui peuvent se passer dans les métropoles, la métropole qui peut attirer plus de réactions ou de choses négatives, mais aussi à l'inverse, par rapport à un stress, par exemple, quand on parle de la conscience environnementale et puis le stress du changement climatique, bah, vivre dans un territoire de ville moyenne, c'est aussi un territoire où on peut avoir plus d'impact, à la fois dans son mode de vie, et puis aussi dans la participation à des actions solidaires ou des actions collectives, parce que tout est plus simple, tout est plus facile, et on peut vraiment vivre, par exemple son souhait d'une transition écologique, c'est plus sans doute plus facile de le mettre en œuvre quand on peut avoir un petit jardin ou quand on peut facilement avoir accès à la nature que quand on vit dans une métropole, dans un mode de vie urbain très différent de celui des villes moyennes.
Eh bien, merci beaucoup de ce témoignage qui ouvre très bien l'émission, Mathilde Sille. Vos propos, c'est un peu comme une campagne de promotion pour aller vivre. Aller vivre à Poitiers, le bien-être environnemental. C'est donc le thème ce soir. Une semaine en France, le choix de quitter les grandes villes pour la campagne ou une ville de taille moyenne. Autre exemple, nous partons à Angers. C'est dans le top 3 des villes où il fait bon vivre. Angers, capitale de la douceur angevine, pour reprendre les mots de Joachim Dubélé. C'est aussi la ville la plus verte de France où il y a très peu d'embouteillages. Voilà pourquoi Sandrine Audin s'est offert le luxe d'un tour de la ville d'Angers en taxi. Le chauffeur s'appelle Laurent. Micro ouvert de Sandrine Audin.
Allez, on est parti.
On y va.
On commence par quoi ?
Le château.
Le fameux
château, donc du XIIIe siècle, du bon roi René.
Combien de temps là pour aller au château ?
C'est moins de 5 minutes. On n'est quand même pas à Paris. Je suis né ici, donc forcément je suis un petit peu chauvin. Donc là on passe par la fameuse donc église Saint-Lô, d'où le nom de la gare Angers-Saint-Lô.
C'est pas dans ma tête là, les personnes marchent relativement doucement.
Tout à fait, oui. Ça se sent aussi sur la route, quoi.
C'est-à-dire ?
On n'est pas speed. Moi, j'ai vécu à Paris, j'étais étudiant à Paris, après j'ai travaillé à Paris. Quand je suis arrivé, j'étais un peu comme un extraterrestre, parce que justement, j'étais beaucoup plus lent que la moyenne, en fait.
Ce qui me frappe, c'est que j'entends pas le klaxon. À Paris, une demi-seconde après le feu vert, klaxon.
Ah oui, alors là, c'est vrai que le klaxon, il y en a très très peu. Moi-même, je m'en sers uniquement pour les cas de danger extrêmes.
Ça joue sur la douceur.
Alors ça joue, oui, c'est vrai. Ça adoucit la circulation dans la ville.
Soyez franc, vous pourriez être taxi à Paris.
Je pourrais, mais ce serait compliqué.
Péteriez un plomb.
Je pense, oui. C'est vrai qu'à Paris, et forcément, là, c'est un petit peu au plus fort la poche pour passer dans les rues. Donc
au plus quoi ?
Au plus fort la poche. Donc là, on arrive devant le fameux château d'Angers. Le tramway qui passe...
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mobilité douce.
Oui, exactement. Et en plus, on a deux nouvelles lignes de tramway qui ont été construites, qui passent par le cœur de la ville. Et ce qui fait, je pense, tout le charme de la ville, c'est aussi la propreté de la ville. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens de grandes villes qui arrivent à Angers, que ce soit Lyon, Paris ou ailleurs, et qui à chaque fois me disent « c'est très propre ». Donc c'est vrai que...
Ah, téléphone ?
Non, ça c'est juste une course. Le jardin des plantes sur la gauche. L'avantage d'Angers, c'est qu'il y a des petits parcs partout.
Parce que là, on voit la carte là sur votre GPS. Tout est vert là ?
Alors, tout ce qui est vert, oui, c'est tout ce qui en fait est vraiment boisé, etc.
Il y en a partout, partout, partout.
Il y en a partout. Regardez, rien que les lignes du tramway sont vertes puisqu'il y a de la pelouse partout. Et là, on va remonter les grands boulevards.
Et là, encore de la verdure.
Voilà.
C'est complètement vrai.
Ah c'est vrai que c'est super agréable. Et puis en plus de ça, on a la Maine, on a le lac de Maine. On va passer juste à côté. Alors ce qui, on va dire, ajoute de la douceur et on va dire une manière de bien vivre à Angers, c'est que c'est une ville moyenne, donc environ 160 000 habitants intramuros, qui a, on va dire, tout ce dont on a besoin.
Ah, on n'a pas parlé du sport et de l'offre aussi.
Alors Angers est une ville très très sportive.
Sans parler en plus de l'offre culturelle. Il y a de quoi faire.
Exactement. Pour moi, c'est tout simplement ça, la coolitude, c'est au quotidien.
Vous avez des clients qui sont des Parisiens qui sont venus s'installer à Angers ?
Ah oui, beaucoup. Mais aussi d'autres grandes villes. Hein.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, justement, ces clients ? Qu'est-ce qu'ils ont gagné ?
Eux, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ont gagné une manière beaucoup plus paisible de vivre, en fait. Tout simplement, quoi.
Vivre de façon plus paisible, tout simplement. Voilà pour ce reportage dans la verdure et la douceur angevine. C'était le micro ouvert de Sandrine Audin. Question donc ce soir sur le bien-être environnemental. Sachez aussi qu'il existe un observatoire du bien-être. Il dépend du Centre pour la recherche économique et ses applications. Eh bien, nous sommes en ligne avec la directrice de cet observatoire du bien-être. Bonsoir, Claudia Sénic.
Bonsoir.
Vous êtes aussi professeur à la Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Selon vos derniers rapports annuels, le bien-être des Français est resté stable ces dernières années, qu'ils soient à la ville, qu'ils habitent à la ville ou à la campagne ?
Il y a vraiment une différence de satisfaction dans la vie selon le type d'agglomération dans laquelle on habite quand même. En gros, les gens sont plus heureux à la campagne et de moins en moins heureux au fur et à mesure qu'ils sont dans des agglomérations plus importantes. Sauf une espèce d'exception à cette règle, c'est l'insatisfaction particulière des habitants des communes entre 20 000 et 100 000 habitants, des villes entre 20 000 et 100 000 habitants. Là, c'est vraiment le creux. Parce que la satisfaction vis-à-vis des relations sociales, amicales, etc. est beaucoup plus faible. Donc, on a une espèce de désertification. Et sinon, par rapport au témoignage qu'on a entendu, il y a aussi une étude de l'INSEE à l'aide de leur grande enquête auprès des Français régulières qui montre effectivement que les gens sont assez heureux dans les villes comme Rouen, Tours, Orléans, Limoges ou Annecy. Donc, il y a vraiment un effet du contexte local sur la satisfaction de vie des gens, indépendamment de leur situation personnelle à eux, quoi. En plus de leur situation personnelle. C'est pas parce que c'est des gens qui sont moins heureux dans leur vie. C'est en plus de leur situation de revenus et de chômage, etc., ou éventuel. Le contexte local joue beaucoup.
Où qu'ils soient, les Français recherchent toujours de l'interaction sociale. Avoir son réseau, c'est un facteur important dans la recherche du bien-être.
Oui, mais pas que pour les Français, pour tout le monde, c'est un facteur primordial en fait. Une des questions les plus importantes qui mesure vraiment la satisfaction des habitants des différents pays, c'est avez-vous quelqu'un sur qui compter, qui est une espèce de résumé du sentiment d'être intégré socialement. Donc bien sûr, c'est très important.
Dans les villes moyennes, les centres-villes se vident de leur commerce traditionnel. Est-ce que ça a un impact sur le bien-être des habitants ?
Ah, ça a un impact très important. On a écrit une note pour le Conseil d'analyse économique avec Yann Algan et Étienne Fies qui montrait que quand un service ou un commerce fermait dans une commune, ça rendait les gens assez malheureux, ça accroissait l'abstention aux élections, donc ça a des conséquences même sur le comportement politique. Et par exemple, c'était il y a quelques années, donc ça avait eu un impact sur la probabilité de participer à une manifestation des Gilets jaunes à l'époque, donc manifestation d'insatisfaction. Donc évidemment, c'est assez déprimant.
Et même si on vit mieux à la campagne, si on lit vos rapports annuels, il reste tout de même une inquiétude liée à l'avenir. Est-ce qu'on sait précisément ce qui motive cette inquiétude quand les Français pensent au futur?
Il y a toutes les raisons de s'inquiéter de l'avenir, des raisons géopolitiques, des raisons environnementales.
Je veux dire que c'est mesuré aussi précisément que ça, quand on demande aux Français de quoi ils s'inquiètent, ils vous répondent précisément ces
chapitres. Alors il y a pas mal d'enquêtes qui posent ces questions-là, quels sont les grands risques que vous percevez? Alors ça change un peu au cours du temps, hein. Quand il y a des attaques terroristes, évidemment ça monte en haut de la conscience. Et puis ensuite, sinon, enfin, en ce moment, on voit bien quelles sont les sources d'inquiétude et d'incertitude, donc c'est important. Ce que je voulais dire aussi sur le bien-être local, c'est que, par exemple, vivre à Paris ou dans l'île de France, c'est assez ambigu, parce qu'il y a tout ce qu'on appelle, nous, les économies d'agglomération, donc l'offre culturelle, etc., les loisirs. Donc, mais à cause du problème du logement et du problème des transports, qui font partie des inquiétudes, justement, finalement, on est vraiment moins heureux en Île-de-France et à Paris, tout compte fait. Si on neutralise l'effet du logement et du transport, on est plus heureux à Paris, en fait, qu'ailleurs en Île-de-France. Donc, ça fait partie des points noirs de la vie des Français.
Est-ce que la
question du logement et la question du transport.
Évidemment. Est-ce que la durée d'ensoleillement joue aussi dans le bien-être des villes?
Alors, dans cette enquête de l'INSEE, parce que évidemment ils ont accès à plus de données que nous, parce que nous, on ne peut pas avoir vraiment un grain très fin, ils montrent que les Français sont beaucoup plus heureux sur le littoral, et notamment sur la façade atlantique. Donc, c'est vraiment là où les niveaux de satisfaction dans la vie sont les plus élevés, dans l'ouest du pays, sur la façade maritime, dans le Finistère, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans les Landes, en Vendée, en Loire-Atlantique, etc. Ce sont les départements où la satisfaction moyenne est la plus élevée.
Un mot sur les jeunes. Votre rapport annuel montre une grande envie de mobilité des jeunes. Où est-ce qu'ils veulent aller vivre ?
Peut-être dans ces fameuses villes où la qualité de vie, comme on dit, est meilleure. En fait, quand on parle de qualité de vie, c'est à la fois le rapport à la nature, donc à la fois les espaces verts, le calme aussi, le bruit, ça compte énormément. On a fait un rapport là-dessus. Et puis peut-être aussi, tout simplement, le coût de la vie est un peu moindre.
Un mot sur la méthode de vos études. Comment est-ce que vous évaluez, comment mesurez-vous le bien-être dans une ville ?
Alors nous, on est tout à fait libéraux, c'est-à-dire qu'on pose la question aux gens de savoir s'ils sont satisfaits de leur vie ou alors satisfaits de leurs relations sociales, de leurs amis, etc. Et donc, ils se mettent eux-mêmes une note de 0 à 10. Et après, nous, on met ça en regard avec les autres informations qu'on a sur eux et on analyse ce qui fait qu'ils sont heureux ou pas. Donc, on leur demande pas est-ce que vous êtes heureux de ceci ou de cela, etc. Nous, on décide pas de ce qui est important. Chacun a sa recette. Ils nous donnent leur note et nous, on essaie de comprendre ce qui se passe.
Merci beaucoup de ces explications, Claudia Sénic, directrice donc de l'Observatoire du bien-être. Bien-être environnemental. On en parle sur France Inter jusqu'à 19h.
Je suis pas la fille qui ose, je suis pas la fille qui pose, pas la fille qui fait rire, pas de grandes choses à dire, pas la fille à la mode, jamais compris les codes, pas vraiment de conviction, quelques bêtes addictions. Pas comme ça, un peu folle. Pas du tout une idole. Pas une briseuse de cœur. J'avais trop souvent peur. Pas une grande sportive. Pas vraiment combative. Voilà tout ce que je ne suis pas. Alors moi je suis quoi? Je suis la fille peu cool.
La fille pas cool, c'est le titre de cette chanson de Yael Naïm, c'est le choix de Djoubaka. Vous écoutez Une semaine en France, c'est aussi une équipe. Charline Legris à la rédaction en chef, Juliette Gou à la réalisation. Grand merci également à Benjamin Ducy qui m'a aidé à préparer cette émission. Il est 18h39.
France Inter, le 18-20.
La suite d'Une semaine en France, ce soir sur le bien-être environnemental selon les communes. Le bien-être en ville également, comment de grandes communes tentent-elles de limiter le stress lié à la foule, au transport, comment lutter contre les pollutions sonores et visuelles. Et bien sachez qu'il existe une agence qui aide les collectivités à rendre la ville plus vivable. L'agence S-City par exemple, nous sommes en ligne avec sa cofondatrice. Bonsoir Alice Cabaret.
Bonsoir.
Vous êtes urbaniste et votre agence intervient notamment auprès de la ville de Paris, également auprès du Grand Orly Seine-Bièvre, qui regroupe 24 communes au sud de la capitale. D'ailleurs, comment est-ce que vous définissez la mission de votre agence ?
Eh bien, la mission de City, c'est d'améliorer les environnements urbains afin qu'ils puissent mieux répondre aux besoins de leurs habitants et de leurs habitantes. Et parmi ces besoins, bien, il y a des besoins cognitifs, émotionnels et sociaux. Et c'est pour ça qu'on a formé un collectif qui travaille sur le croisement entre urbanisme et sciences cognitives. Et les sciences cognitives, c'est ce champ de discipline qui regroupe notamment la psychologie, la philosophie et les neurosciences.
Alors que disent vos études concernant l'impact, par exemple, de l'architecture sur les émotions positives ou négatives des riverains? La largeur des rues, par exemple, la hauteur des murs aussi, ça joue ça?
Oui, alors on sait que nos lieux de vie, ils ont un impact sur notre santé physique et mentale. Comme vous le dites, il y a beaucoup d'études qui visent en fait à qualifier, à quantifier cet impact, l'impact du bâti sur nos émotions, et donc qui peuvent donner des préconisations sur le ratio hauteur, largeur du bâtiment idéal, ou sur des recommandations concernant la matérialité, les formes, les détails architecturaux. Tout ça, on sait que ça a un impact en fait sur nos perceptions et nos émotions. Cependant, nous, on préfère interpréter aussi ces études avec une certaine prudence. Elles ne constituent pas des règles absolues. Au-delà de la morphologie du bâti, on sait que notre santé en ville, elle est en fait dépendante de systèmes beaucoup plus subtils, invisibles, comme par exemple de la qualité de nos interactions sociales, on en parlait tout à l'heure, ou de nos interactions avec le vivant.
Et vous réinventez aussi le simple fait de marcher en ville. Ça fait partie des travaux de votre agence. Quels sont d'ailleurs vos critères pour favoriser les déambulations dans de bonnes conditions en ville ?
Oui, alors je ne sais pas si on réinvente la marche en ville, mais c'est vrai qu'on s'intéresse énormément à la marchabilité. On sait que la marche, ça a un impact positif sur la santé physique, donc par la pratique d'une activité, mais aussi sur la santé mentale. On sait que la marche, ça améliore par exemple la créativité, ça améliore la régulation émotionnelle, et la marche, ça a aussi un impact sur la santé sociale. Et on parlait de santé sociale aussi tout à l'heure, de lien social. On sait que les quartiers, par exemple, qui sont plus marchables, c'est là où le lien social est le plus fort, c'est ce que montrent certaines études. Et donc là où le lien social est le plus fort, ça fait des quartiers plus résilients.
En début d'émission, oui, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois.
Oui, bon, il y a plein de manières de favoriser la marche en ville. Des choses concernant effectivement la qualité des espaces qui sont dédiés à la marche. On parlait dans les témoignages tout à l'heure de propreté, de sentiment de sécurité, de sûreté, de mobilier urbain aussi qui soit propice à la pause. Et puis sans oublier aussi tout ce qui est accessibilité PMR, des enfants, la place des enfants en ville, la place des seniors en ville.
La cofondatrice de votre agence est docteur en neurosciences. Vous êtes donc capable dans votre agence d'évaluer à quel point l'urbanisme peut peser sur la santé mentale des riverains. Mais ça se mesure comment ?
Alors effectivement, la cofondatrice Emma Villarem est docteur en neurosciences et en sciences cognitives. On a aussi un cofondateur qui s'appelle Pierre Bonnier. Et en fait, c'est là où vraiment c'est très intéressant de pouvoir associer nos différentes disciplines, de l'urbanisme de mon côté, les sciences cognitives du leur. On utilise différentes manières de pouvoir qualifier, quantifier ce bien-être, cette santé mentale en ville. On fait des études qualitatives, on fait des études quantitatives, on fait pas mal de diagnostics sensibles qui conduisent à élaborer des cartes émotionnelles et sensorielles qui, généralement, vont nous aider à ensuite formuler des recommandations. Là, on fait du conseil sur des recommandations pour améliorer les espaces publics, notamment.
Je vous arrête sur la carte sensorielle et émotionnelle de l'espace urbain. Ça ressemble à quoi, cette carte?
Eh bien, beaucoup de choses. Je pourrais vous envoyer certains modèles.
Je voudrais surtout la faire comprendre aux auditeurs qui nous écoutent ce soir.
Alors, pour la faire comprendre, je dirais qu'on s'appuie sur des émotions de base. Ça peut être la joie, la surprise, la colère, la peur. Et en fait, on les attribue à certains points dans l'espace public. Et pour ça, on s'appuie sur des entretiens ou des observations avec les usagers de l'espace public. Et je trouve que ces outils-là sont très complémentaires à des outils assez classiques qu'on peut avoir en urbanisme, puisqu'ils permettent d'aller vraiment au fond en fait, de l'interprétation d'un espace, de son appropriation, de nos perceptions et de nos émotions au sein d'un espace pour comprendre là où sont les leviers d'action, que ce soit des points d'action prioritaires ou justement des choses à conserver aussi pour la transformation des espaces.
Alice Cabaret, vous restez encore un peu avec nous. Je voudrais vous poser encore une ou deux questions. Le temps de me tourner vers vous. Corinne Audouin, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Il y a aussi une mode en ce moment, enfin qui dure d'ailleurs, une mode des différents palmarès qui nous promettent de mesurer le bien-vivre.
Oui, vous en parliez en introduction, Eric. Les villes où il fait bon vivre, c'est ce qu'on appelle dans la presse un marronnier. Et ça marche évidemment car chacun a envie de savoir si sa ville ou son village est bien noté. Et puis c'est un outil formidable pour les élus locaux. Ce marketing territorial ne date pas d'hier. En 1968, l'ORTF vantait les charmes de la Creuse.
Le syndicat d'initiative de Guéret a lancé un slogan bien sympathique. En Creuse, vacances heureuses. Guéret met à votre disposition ses 19 hôtels et 82 meublés.
Voilà pour le slogan.
J'adore le La Creuse.
Vacances heureuses. Alors, de cette vision assez subjective, on va passer à l'idée de mesurer le bien-être avec d'autres critères que la croissance économique. Ainsi, en 2008, Nicolas Sarkozy missionne un comité d'experts présidé par le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz.
Remettre l'humain au cœur de l'économie, c'est en substance le message de ce rapport. Car aujourd'hui, la situation d'un pays est surtout mesurée à travers son PIB, son produit intérieur brut. Or, tout ce qui est de l'ordre du bien-être n'est pas pris en compte, déplore Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie et un des auteurs du rapport.
Le PIB mesure la production marchande et ce n'est pas quelque chose qui mesure le bien-être. Ce qui pourrait mesurer le bien-être, c'est par exemple les loisirs.
Les loisirs, mais aussi la santé, l'éducation ou encore l'environnement, il faudrait mettre en place tout un nouveau système de statistiques, le but étant que les politiques s'en servent.
Un reportage diffusé en septembre 2009 sur RFI.
Ouais, et 16 ans plus tard, Corinne, est-ce que c'est toujours d'actualité ?
Eh bien, ces indicateurs sont en effet mesurés chaque année par l'INSEE, on en parlait tout à l'heure, mais on n'entend pas beaucoup, les pouvoirs publics s'en emparer, et de fait, le dogme de la croissance est toujours là. Alors, en revanche, certains de ces critères, eh bien, sont devenus des arguments marketing intégrés dans ces fameux palmarès des meilleures villes et villages, Le Point, Le Figaro, le JDD, chacun fait sa tambouille pour établir son classement annuel. Extrait d'un reportage de France 3 à Bozoul, dans l'Aveyron, classé en 2024 par Le Figaro, la ville la plus agréable du Sud-Ouest.
Vivre ici, c'est faire le choix de la qualité de vie sans trop s'éloigner de la ville. Rodez est à 23 km.
Nous avons tenté de nous inscrire dans un cercle vertueux, j'ai envie de dire, parce que, en fait, plus de population, c'est plus de moyens financiers qui sont apportés à la commune, à la communauté de communes, et donc plus de moyens pour réaliser. Ensuite, le souci que nous avons eu, c'est toujours de travailler, d'améliorer toujours le cadre de vie. Le cadre de vie des habitants qui a eu un effet levier sur le tourisme, avec une perception beaucoup plus positive du village et du site touristique.
Revers de la médaille, les biens immobiliers devenus denrées rares.
Aujourd'hui, on n'a absolument rien à vendre dans Bozoul. Dès qu'on rentre bien à la vente, il est vendu dans la semaine.
Et voilà, car la limite, c'est celle des critères qu'on choisit. Est-ce qu'on prend en compte la difficulté à se loger pour les habitants ou le prix du mètre carré qui va plutôt intéresser les investisseurs ? Et ça interroge évidemment la pertinence de ces classements. Et d'ailleurs, ceux qui sont tout en bas, est-ce qu'ils sont malheureux ? Eh bien ici, Gironde est allée à Saint-Michel de Castelnau, classé en 2025 par le JDD, avant-dernier village de Gironde.
Ça sent la résine de pin de la forêt des Landes qui encercle le village. On entend les poules, le coq et pas grand-chose d'autre. À part Jean-Michel qui jette de vieilles bouteilles dans le conteneur à verre, pas convaincu par la mauvaise note de son village.
Très bizarre, oui. Mais j'ai vu ça sur Internet, et ça nous a un peu surpris. D'ailleurs, ça a fait parler dans les villages. J'habite ici, je suis né ici. On est quand même tranquille ici.
Pour cause, et c'est ce qui explique le classement des communes du coin, on est un peu loin de tout.
Après, bon, on a Bazas qui est à 15 km, Casteljaloux qui est pareil à 14. Voilà, nous, ça nous gêne pas, ça nous fait une petite sortie.
Un cadre de vie qui a l'air de bien réussir aux locaux, puisque le village compte 2 centenaires.
Alors voilà, avoir les poules dans le village ou un bon prix de l'immobilier, ça se mesure comment le bien-être ? Je vous laisse avec cette question, Eric, vous avez 4 heures.
Eh bien, je sais, ça se mesure notamment avec cette carte sensorielle et émotionnelle de l'espace urbain, carte que dresse notamment Alice Cabaret. Vous êtes encore avec nous, vous êtes la cofondatrice de l'agence City. Est-ce que les mairies, que font les mairies de vos recommandations ? Est-ce qu'elles en tiennent compte souvent ou est-ce qu'elles passent leur tour ?
Je dirais que la crise du Covid, en tout cas, elle a accéléré une prise de conscience concernant la qualité de vie en ville. Et oui, les recommandations, elles sont progressivement mises en œuvre par les différentes communes. Alors, quand elles ne le sont pas, c'est souvent dû à des arbitrages budgétaires. Et en fait, la santé, qu'elle soit humaine ou environnementale, n'est malheureusement pas toujours vue comme une priorité. Et c'est pour ça que notre travail contribue notamment à inscrire cet enjeu au cœur des priorités territoriales et citoyennes.
Ce n'est pas toujours une priorité. Pour terminer, vous nous dites quand même que les mairies sont plus sensibles qu'il y a quelques décennies ?
Tout à fait. Comme je disais, notre agence elle est de plus en plus sollicitée pour mener des diagnostics sensibles, pour élaborer des recommandations pour la transformation des espaces publics, afin qu'ils soient plus adaptés à la santé physique et mentale des usagers. On voit aussi de plus en plus d'appels d'offres qui intègrent des notions, par exemple, d'urbanisme sensoriel, des notions de sciences cognitives, de quartiers à santé positive. Merci. Il y a des villes comme Lille, Grenoble et Lyon qui sont très actives là-dessus.
Merci beaucoup, Alice Cabaret, cofondatrice de l'agence City, et merci de rendre nos espaces urbains plus vivables. La suite d'une semaine en France. Rendez-vous dans un instant avec nos collègues du réseau ici pour un tour d'horizon de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous irons en Pays de Savoie, en Armorique, en Occitanie, à Saint-Sulpice-la-Pointe précisément, à une demi-heure de Toulouse, et nous verrons pourquoi le maire appelle la population à faire des bébés. Écoutez, merci bien d'écouter une semaine en France. À la technique ce soir, Ronan Maé, Mélissa Etroit et Florian Dorémini, 18h51.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Don't worry, be happy, c'est un peu le thème de l'émission ce soir en 1988. C'était Bobby McFerrin.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
Le multiplex des régions, l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ici Pays de Savoie, ici Occitanie et ici Armorique. Sandrine Morin, Céline Guettaz et Tommy Cataneo. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
On va commencer à Saint-Sulpice-la-Pointe dans le Tarn, Sandrine Morin. Là-bas, le maire appelle la population à faire des bébés.
Oui, c'est la période des vœux en ce moment pour les élus. Et dans le Tarn, Saint-Sulpice-la-Pointe, à une quarantaine de kilomètres de Toulouse, le maire Raphaël Bernardin a un vœu plutôt étonnant pour ses habitants. Il leur souhaite, il les exhorte même à faire des bébés. Faites des enfants, a-t-il dit au micro d'ici Occitanie. Et quand on parle de Saint-Sulpice, on ne parle pas d'une petite commune dans un coin reculé. Hein. Non, cette petite ville tarnaise est située sur l'axe très fréquenté Toulouse-Albi. Elle gagne chaque année des habitants. Mais dans cette commune de 10 000 habitants, desservie par l'autoroute et le train, il y a aujourd'hui plus de personnes qui meurent que de bébés qui naissent. Quant aux nouveaux habitants qui arrivent, ce sont souvent des jeunes retraités ou des couples avec des grands ados et donc pas de bébés comme le souhaite le maire. Et pour l'équilibre d'une commune, ce n'est pas bon, insiste-t-il. En 8 ans, sa commune a perdu près de 400 élèves et 9 classes sont fermées. C'est la conséquence la plus forte. Autre indice marquant, aujourd'hui à la MJC de Saint-Sulpice, les inscrits adultes sont plus nombreux que les enfants. Les clubs de sport aussi en pâtissent. Un appel qui fait en tout cas plutôt sourire dans la commune, même si on a rencontré dans cette petite ville une maman qui raconte avoir renoncé à faire un deuxième bébé parce que ça coûte très cher d'avoir un enfant, confie-t-elle.
Sandrine Morin de Saint-Sulpice-la-Pointe dans le Tarn. Nous partons au sud de Rennes. Céline Guettaz, racontez-nous donc cette belle histoire de solidarité entre agriculteurs et des automobilistes tombés dans le fossé.
Eh bien Eric, nous sommes lundi soir, il neige à plein panier sur la métropole rennaise depuis la fin de l'après-midi. François quitte le bureau pour rentrer chez lui. Il emprunte une petite route aux abords de la 4 voies entre Nantes et Rennes, mais à une vingtaine de kilomètres au sud de Rennes, à Laillé, dans la côte de Caran. Il se retrouve bloqué et rapidement au fossé, comme une centaine d'autres automobilistes. Dans ces voitures, il y a des familles avec des enfants et il fait un froid glacial. Les pompiers sont appelés, mais ils n'ont pas les moyens d'évacuer tous ces véhicules. Les élus de la commune de Laillé demandent alors le renfort des meilleurs sauveteurs dans ce type de situation. Les agriculteurs du coin, ils sont 4 à accepter la mission, à monter à bord de leur tracteur pour évacuer les véhicules au fossé. Joël et James, notamment, ils l'ont fait parce qu'il fallait le faire. Rien d'extraordinaire, on n'est pas héroïque, c'est normal, nous disait-il. Beaucoup d'humilité donc, et pourtant leur intervention a été déterminante. Parmi la centaine de véhicules, il y avait de centaines de véhicules bloqués. Il y avait notamment une saleuse que les agriculteurs ont donc tractée. Quant à François, notre naufragé de la route, originaire de Clermont-Ferrand et habitant Nozay en Loire-Atlantique, eh bien il a passé la nuit à Laillé chez l'un des agriculteurs qui lui a offert le gîte.
Céline Guettaz au sud de Rennes, une grande diagonale pour aller au Grand Bornand à présent, en Haute-Savoie, Tommy Cataneo. Voilà une galette des rois géante, hein, c'est encore de saison, au profit d'un événement caritatif.
Oui, dans la station, on se vante même d'avoir la plus grosse de France, 1,70 m de diamètre. Cette énorme galette a été confectionnée par la famille Bétan qui tient la boulangerie artisanale du même nom au Grand Bornand. Tout le monde a mis la main à la pâte feuilletée pour réaliser le gâteau. Bruno, le papa, Quentin et Félix, les deux fils. On était bien 6 ou 7 pour la préparation de la pâte et de la crème frangipane, explique-t-il. Les proportions sont impressionnantes, 20 kilos de chaque au total et 20 fèves soigneusement cachées dans la préparation. Tout ça est allé à bout de bras avant de partir dans le gros four de la boulangerie, 2,50 m de profondeur pour 1,80 m de large. De nos yeux, nous avons vu cette galette cuire doucement entre 170 et 180 degrés. Faire des bulles, c'est la vapeur de la crème d'amande, explique Bruno. Et au bout de 2 heures, la galette est enfin prête.
Et puis Tommy, la galette a été vendue donc et dégustée dans la foulée. Hein.
Oui, ça a été l'occasion d'une grande fête lundi soir au Grand Bornand. Ce sont les moniteurs de ski de la station qui l'ont transportée de la boulangerie jusqu'au centre du village où elle a ensuite été découpée. Près de 300 parts vendues, 3 euros l'unité. Tout est parti en quelques minutes et une partie des fonds récoltés, environ 500 euros, ira à l'association chambérienne Ma Chance Moi Aussi, qui accompagne les enfants qui habitent dans des quartiers prioritaires et dont les familles sont en difficulté éducative.
L'actualité d'ici et d'ailleurs avec le concours indispensable de nos amis du réseau ICI. À suivre le journal de 19h.